58. 21h24. Jourdain Blanc-Martin discutait avec Agnès de Castro, une séduisante veuve catalane, propriétaire d'une dizaine d'appartements sur la côte méditerranéenne, de Barcelone à Pise, vide et disposée à en laisser la moitié pour héberger des réfugiés, riches. Lorsque les cordes de l'adagio de Barber vibrèrent dans sa poche gauche. L'adagio était interprété par le New York Philharmonic et dirigé par Leonard Bernstein. Seul Jourdain était capable de reconnaître la différence avec la version classique, celle de la sonnerie de son téléphone officiel, dans sa poche droite. Il s'excusa auprès des convives. Ses associés, dévoués, sauraient aussi bien que lui négocier au meilleur prix ses résidences secondaires, occupées quelques rares semaines de l'année. Dans le registre de l'économie de partage, louer ses appartements à des réfugiés fortunés était autrement plus valorisant pour l'ego que d'arrondir ses fins de mois avec Airbnb. Il s'éloigna de la grande salle de réception lambrissée du château Calissane, où les précieux donateurs signaient des chèques d'autant plus élevés que le vin était de qualité. Il avança dans les allées désertes du parc du château et décrocha. Max Olivier, son banquier.
Je suis en réunion, Max O.
Officiel ?
Oui, officiel. Mais tu peux parler. Je suis seul.
On a un problème avec le Kenitra. Il devait partir à 21h de Saïdia, avec 35 bracelets rouges à bord. Tout était réglé, mais le moteur vient de claquer. Une brave bête qui se promène depuis 7 ans sur la Méditerranée chargée comme un mulet.
T'es où ?
Au port de Saïdia. C'est le pilote qui vient de m'appeler.
On a un autre bateau à quai ?
Aucun. Et les bracelets rouges gueulent. Ils annoncent de la tempête dans les semaines prochaines. Déjà que ce soir, c'est pas très beau à voir en mer.
Tu les fais patienter. On n'a pas d'autre solution.
Jourdain, ils vont faire un scandale. Imagine qu'ils parlent.
Jourdain imaginait. Même s'il savait qu'il ne pourrait jamais remonter jusqu'à lui. Rares étaient ceux qui prêtaient foi à ces rumeurs délirantes que le grand patron de Vogelzug tenait sa fortune du trafic de migrants.
Quand est parti le dernier bateau ?
Il y a une heure, l'Albert Kahn, plein comme un œuf avec 150 clients à bord. On accélère la cadence avant la tempête annoncée.
Jourdain s'assit contre une fontaine, face à une jolie statue de Diane chasseresse entourée de trois biches. Il prit le temps de réfléchir au problème.
Sur les 150 passagers de l'Albert Kahn, il y a combien de bracelets verts ?
Une trentaine, je dirais.
Jourdain apprécia. Son banquier était efficace. Aussi efficace que son alter ego, l'argentier, de l'autre côté des murs. Il pouvait. Ils étaient grassement payés pour se contenter d'appliquer à la lettre ou au chiffre les règles d'or imposées par Jourdain. Par exemple, que sur un chargement, les bracelets verts ne soient jamais majoritaires.
Ok. Tu me contactes le pilote de l'Albert Kahn. Il me fait descendre les 30 bracelets verts dans une chaloupe et il fait demi-tour pour retourner chercher les autres à Saïdia.
Jourdain sentit Max Olivier hésiter à l'autre bout du téléphone.
Avec les vagues en haute mer, ils ne tiendront pas 10 minutes sur une barque.
Jourdain haussa le ton. Diane détournait la tête et fixait la cime des arbres tout en caressant l'une des biches.
Tu proposes quoi, alors ? Tu crois qu'une fois revenu sur les quais de Saïdia, tu vas parvenir à faire redescendre les 30 migrants low cost sans faire d'esclandre et réveiller la police marocaine ? Ce sera beaucoup plus discret au milieu de la Méditerranée. On a déjà fait ça 1000 fois. Le pilote trouve n'importe quelle excuse bidon. Panne de moteur, patrouille de douanier, risque de bagarre. Et vous me libérez 30 places. De toute façon, s'ils ne sont pas d'accord et que ça traîne trop, les bracelets bleus et rouges se chargeront eux-mêmes de les balancer par-dessus bord.
Il entendit Max Olivier soupirer. Jourdain insista.
On ne force personne à embarquer, Maxo.
Si on ne leur fournissait pas de bateau,
il tenterait tout de même la traversée avec une bouée.
C'est bon, Jourdain. Pas à moi. Épargne-moi le refrain. Le pilote de l'Albercan est un bon soldat. Il n'hésitera pas.
Les bracelets verts connaissent les risques, précisa pourtant Jourdain. Chacun prend ses risques. On prend nos risques, nous aussi. S'ils ont de la chance, une patrouille les récupérera. Sinon, ça servira de leçon aux autres. Ça cause entre migrants, et ils comprendront qu'il vaut mieux mettre plus cher dans la traversée. Tu me préviens quand c'est réglé ?
Ok.
Maxo n'avait pas raccroché. Comme s'il avait autre chose à lui dire, ça n'avait rien à voir avec ces 30 migrants abandonnés sur une coquille de noix au milieu de la Méditerranée, avec davantage de chances de périr que de survivre. Les morts noyés en Méditerranée se comptaient par dizaines chaque mois. Si ce n'est pas lui qui se chargeait de la traversée, d'autres le feraient, des amateurs, avec des taux de perte beaucoup plus élevés. Autre chose, Maxo ?
Le gamin d'hier, Alpha Mahal. Celui qui voulait vendre des traversées 5 étoiles.
Oui.
Depuis hier, toujours aucune nouvelle de lui.
Putain. Je t'avais pourtant demandé de l'avoir à l'œil. Tâche de le trouver, avant demain matin. Jourdain raccrocha cette fois, inquiet. Il avait déjà oublié cette histoire d'échange de passagers. L'affaire serait vite réglée et le différentiel de gain, 30 fois 5000 euros, moins de 2000 coris, était négligeable. Tout son esprit était occupé par cette famille mâle. Leili, la mère, ne bougerait pas. Il la tenait. Il connaissait son petit secret. Il lui réserverait une surprise pour demain matin. Bambi, d'après le texto reçu de la part de Yann Segalen, puis de Petar Velika, était coincé. Pas trop tôt. Il ne restait plus que le cas de ce petit salaud à régler. Il jeta un dernier coup d'œil au statut de Pierre, rangea son téléphone dans sa poche gauche et se dirigea à nouveau vers les lumières de la salle de réception du château Calissane. Le vin y était excellent et la compagnie charmante.